Labologie, votre revue de presse dans les domaines de la biologie et de l'écologie, une émission préparée, réalisée et présentée par Aurélien Ossé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Et oui, c'est donc Aurélien pour ce nouveau numéro de votre émission Labologie, numéro de ce mois de février 2025. Et oui déjà. J'espère que vous allez bien, que votre hiver se passe bien, très bien, que vous êtes un petit peu remis d'un mois de janvier peut-être gourmand, peut-être froid aussi d'ailleurs. Mais bon, l'hiver se poursuit et il faut bien que l'hiver se fasse avant bien évidemment le printemps. Alors sachez qu'aujourd'hui, eh bien nous allons parler une nouvelle fois de la neige. Le mois dernier, nous avons vu pourquoi la neige est blanche. Eh bien aujourd'hui, nous allons voir comment tombent les flocons de neige. C'est un sujet donc tout à fait de saison. Puis nous parlerons des plastiques en se posant cette question, est-ce que tous les plastiques se transforment finalement en microplastiques? Et puis, eh bien, en cours d'émission, nous parlerons des plantes qui peuvent être plus ou moins riches en vitamines. Et puis, un petit peu de géologie pour changer. Pourquoi un volcan peut être explosif ou effusif? Mais sans plus tarder, prenons ce sujet de saison, comment tombent les flocons de neige ? Alors voici comment tombent les flocons de neige. On est un petit peu dans la météorologie, mais aussi sur des questions physiques. Et je vais pouvoir vous répondre à cette question grâce à l'article paru dans Science et Vie. C'était en décembre dernier. Alors déjà, eh bien, quelques chiffres. 1 à 5. Bien, il faut savoir que 1 à 5, c'est en kilomètres par heure la vitesse moyenne de chute d'un flocon de neige. 38, c'est en centimètres, la largeur du plus grand flocon de neige jamais observé et jamais répertorié. Il a été observé en janvier 1887 aux États-Unis et il figure, eh bien, on peut s'en douter, dans le livre Guinness des records, mais les scientifiques sont dubitatifs quant à sa réelle existence. Et oui, un flocon de 38 centimètres, c'est quand même énorme. Un autre nombre, 80, eh bien c'est le nombre de formes générales de flocons de neige possibles. 80 formes générales, c'est énorme, c'est très intéressant aussi. Les organisations cristallines à l'intérieur, en revanche, sont infinies. Et puis, allez, moins 8, eh bien c'est en degrés Celsius, la température idéale qui permet la formation du flocon de neige, le plus souvent représenté, la dendrite. Alors vous trouverez par exemple sur internet de nombreuses photos et images des différents flocons possibles. Alors par exemple, il y a la plaque ramifiée qui chute à l'horizontale, la plaque à large ramification spiralée, le disque circulaire qui zigzague. Qu'est-ce que je peux citer encore? Eh bien par exemple la plaque hexagonale et puis la dendrite que j'évoquais qui tourne très jolie, très jolie la dendrite qui tourne sur elle-même et qui zigzague. Alors en fait, on peut observer la forme des flocons de neige grâce à des caméras et notamment à très haute vitesse pour voir comment eh bien ils chutent. Et en fonction de leur forme, eh bien leur chute est tout à fait donc différente. Il y a des rotations, il y a des oscillations, voilà. Encore deux autres nombres, si vous me le permettez. Eh bien, un, c'est en milliards de milliards le nombre de molécules d'eau qui composent une dendrite. Donc, une dendrite, c'est une forme de flocon de neige. Je vous invite au moins à aller voir celle-ci parce que c'est vraiment une très 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 jolie forme. Et puis, 250, c'est en grammes le poids moyen d'une boule de neige contenant entre 8 et 9 millions de flocons de neige. Pour conclure, eh bien, chers amis, je vais vous révéler comment se forme un flocon de neige. Donc, tout se passe dans l'atmosphère, la haute atmosphère, lorsque la température passe sous 0 degré. La vapeur d'eau se condense autour de particules de poussière ou de pollen présentes dans l'air pour former des complexes cristallins. Ces complexes cristallins sont les flocons. Et en fonction des conditions de température, mais aussi d'humidité, eh bien, ceux-ci peuvent prendre des formes variées, telles que celles que je viens d'évoquer et qui sont les plus courantes. Chers amis, oh là là, j'avais perdu le micro. Enfin, le micro était éteint. Allez, on reprend le cours de l'émission, bien évidemment. Un sujet moins intéressant, quoique, et surtout moins drôle. Est-ce que tous les plastiques se transforment en microplastiques? Eh bien, les connaissances sont encore limitées sur le sujet, comme le révèle Science et Vie, mais la réponse est probablement oui, avance pour Science et Vie Laurent Lemay, chimiste à l'université de Poitiers. Alors cependant, il faut savoir que les plastiques ne se fragmentent pas tous à la même vitesse. Vous le savez très certainement, il y a différentes natures de plastiques. Alors certains, à l'instar du polyéthylène téréphtalate, le fameux PET, utilisé dans de nombreuses bouteilles en plastique, peuvent mettre des centaines d'années à se dégrader, alors que d'autres se transforment en microparticules en quelques mois seulement. Alors tout dépend donc en fait de leur composition, mais aussi de la solidité, de leur liaison chimique, mais aussi de l'usage qui en est fait. Et oui, on peut s'en douter un petit peu. Par exemple, les pneus, constitués de caoutchouc naturel et synthétique, sont très résistants, mais ils s'abrasent très rapidement sur l'asphalte, on peut s'en douter, produisant ainsi constamment des microparticules. Alors les conditions auxquelles les plastiques sont soumis comptent aussi. S'ils contiennent un additif chimique qui améliore l'absorption des UV, ils se dégradent plus vite au soleil, alors que dans un environnement froid et obscur, comme par exemple au fond de l'océan, ils persistent plus longtemps. Voilà donc, tous les plastiques ne se transforment pas forcément en microplastiques et la durée, eh bien, varie suivant leur nature. Thank you. chers amis, vous êtes toujours à l'écoute de votre émission Labologie, Aurélien pour vous accompagner, et c'était Asymptote de Akira Kosemura, un morceau sorti en 2021. Alors après la neige, les microplastiques, et donc toutes ces questions de physique et chimie, eh bien je vais à présent vous parler un petit peu de botanique et de physiologie végétale. Alors tout d'abord, c'est une information révélée par Science et Vie le mois dernier, comme quoi eh bien certaines plantes se livrent une véritable guerre du pollen. Eh bien, c'est ce que vient d'observer pour la première fois une équipe menée par Bruce Anderson. On est à l'université Stellenbosch en Afrique du Sud sur une plante brésilienne. Alors, à l'aide d'une caméra ultra rapide et d'un crâne de colibri, ce petit oiseau qui vient butiner, eh bien, les chercheurs ont filmé ce qui se passait lorsque le bec de ce petit oiseau très sympathique entrait dans la fleur. Alors, il s'avère que les anthères, c'est donc une partie supérieure des étamines, partie qui contiennent le pollen, sont recouvertes d'un pétale mobile articulé appelé carène. Alors lorsque le bec entre dans la fleur, eh bien la carène va en arrière, entraînant ces structures qui finissent par se libérer en catapultant le pollen. Alors ce dernier file alors à une vitesse extraordinaire de près de 2 mètres par seconde, un peu plus de 2 mètres par seconde, et vient déloger du bec du colibri deux fois plus de pollen concurrent en moyenne qu'en l'absence de ce type de catapultage. Donc ces plantes, donc en particulier cette plante brésilienne, capable des plus fortes explosions de pollen, auront les plus grandes chances de se reproduire, conclut donc le chercheur pour Science et Vie, qui se demande désormais si d'autres stratégies végétales existent pour se débarrasser des grains de pollen rivaux. Chers amis, affaire à suivre. Vous êtes toujours à l'écoute de Labologie, Aurélien pour vous accompagner, et nous restons dans cette thématique de la botanique et de la physiologie végétale. On peut se poser la question pourquoi certaines plantes sont très riches en vitamines alors que d'autres ne le sont pas, voire même pas du tout. Eh bien, les raisons sont avant tout génétiques, mais des facteurs environnementaux, mais aussi humains, peuvent jouer, répond Elsa Denoué du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes pour Science et Vie. Alors au cours du temps, il faut savoir que certaines espèces végétales ont subi de petites modifications au niveau des gènes impliqués dans la fabrication des vitamines, augmentant leur teneur. Alors une partie de ces mutations sont apparues naturellement, tandis que d'autres ont découlé, vous me voyez venir, de l'action humaine. Des agriculteurs ont notamment croisé des espèces pauvres en certaines vitamines avec d'autres espèces plus riches dans le but de créer, vous me voyez venir, des variétés améliorées. L'environnement peut aussi induire des différences. Et oui, pour une même espèce, un ensoleillement et un apport en eau suffisant, des températures adéquates et une récolte à maturité, à la bonne saison, favorisent des teneurs plus ou moins élevées en vitamines. Enfin, il faut savoir que le stockage au frais a aussi un impact. Par exemple, après 28 jours à 1 degré, le raisin peut perdre jusqu'à 28% de sa concentration en vitamine C. Labologie, vous êtes toujours à l'écoute de Labologie, nous sommes ensemble pour quelques minutes encore. C'était un titre très sympathique, survitaminé, de Orchestra Makassi. Alors chers amis, je l'avais évoqué en début d'émission, je vais à présent vous parler des volcans. Et oui, les volcans, nous terminerons ce sujet, nous terminerons l'émission avec ce sujet. Alors pourquoi est-ce qu'un volcan est explosif ou effusif? Eh bien en fait, tout dépend de la profondeur et des conditions dans lesquelles se crée le magma. Cela influe sur sa concentration en dioxyde de silicium et le rend plus ou moins visqueux. Alors les volcans effusifs, d'où émerge une lave liquide, se trouvent majoritairement dans les régions de points chauds, comme par exemple Hawaï, et bien évidemment on pense au piton de la Fournaise à La Réunion. Leur magma provient de zones enfouies à plusieurs centaines de kilomètres dans le manteau où la roche commence à fondre. Or, à ces profondeurs, l'eau, indispensable à la formation du dioxyde de silicium, est rare. Le magma ne contient donc que peu de ce silicium. Dioxyde de silicium. Il est fluide et peu chargé en gaz. Une fois à sa surface, il est éjecté sous forme de coulées de lave liquide. Les volcans explosifs, eux, c'est une autre histoire. Ces monstres aux nuées ardentes et myriades de projectiles brûlants naissent généralement au-dessus des zones de subduction où une plaque tectonique s'enfonce sous une autre. Par exemple, on peut penser à la ceinture de feu du Pacifique. Dans ces régions, la source magmatique est peu profonde, quelques dizaines de kilomètres seulement. La température y est donc moins élevée et la roche ne fond pas entièrement. Surtout, les phénomènes de subduction se produisent souvent en milieu océanique. L'eau entraîne alors la formation de grandes quantités de dioxyde de silicium à l'origine d'un magma très visqueux. Résultat, eh bien, les gaz ne s'échappent pas facilement et les pressions deviennent titanesques, provoquant de très violentes explosions. Chers amis, c'est sur cette information que se referme ce numéro de votre émission Labologie. Je vous remercie pour votre fidélité, j'espère que ce numéro vous a plu. Il y avait des informations diverses et variées dans le domaine de l'environnement. Eh bien, vous le savez, nous nous quittons pour mieux nous retrouver le mois prochain, même station, même heure. D'ici là, prenez soin de vous, à très bientôt. Salut, salut!
C'était Labologie, une émission préparée et animée par Aurélien Osset.